simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Grégor, chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et l'écho des Garrigues à Montpellier et puis bien évidemment la locale à Saint-Girons, sans oublier Radio Primiti sur un sur cette émission réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, eh bien, je crois que ce soir on va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end au niveau des manifestations sur les gilets jaunes. Il y aura des contrastes, je pense. Il y a eu, on le savait depuis le début, qu'il y a des contrastes d'une ville à l'autre. Par exemple, sur Reims, eh bien, je crois que Jean-Noël, tu y étais. Tu vas peut-être nous dire un petit peu ce que tu as constaté.
Oui, ben Reims, oui, c'était pas extraordinaire. Disons qu'il y avait du monde, mais... Mais au niveau qualitatif, c'était très une manif très plan-plan. On sentait que les organisateurs et organisatrices avaient voulu vraiment négocier avec les services de police. Il y avait une collaboration étroite. Ils voulaient absolument pas faire de vagues ni gêner quoi que ce soit. Donc c'était une manif qui a duré 3-4 heures. Enfin.
Ah oui, quand même.
Oui, 3-4 heures, c'est parti autour de 14-15 heures à Boulingrin. Après, ça a convergé vers la gare de Reims. Les gens se sont attroupés devant la gare de Reims, mais bon, il n'y a pas eu de prise de parole. Par exemple, à la gare de Reims, je ne sais pas, à mon avis, il s'est quand même passé des choses au niveau de la SNCF, mais on sent bien que ça n'intéresse... pas grand monde. Ensuite, enfin, je m'étendrai pas là-dessus parce que il n'y a pas eu de prise de parole au micro. C'était beaucoup de, il y avait des motos, beaucoup de motards en colère qui étaient là. Donc c'était le clou du spectacle. C'est très bruyant, tout ça, extrêmement bruyant. Il fallait se montrer. Hein. D'ailleurs, c'est ce que disent certains organisateurs dans le média issu de la résistance rémois. Il fallait se montrer, il fallait montrer qu'on était là, mais surtout sans faire aucune vague, montrer qu'on pouvait passer dignement dans les rues de Reims, sans faire un coup de plume sur quoi que ce soit, ni qui que ce soit, évidemment. Ce grand rassemblement a convergé vers la sous-préfecture. Et à la sous-préfecture, il y a commencé à voir. Bon, il y avait beaucoup de flics qui entouraient, hein, en tenue de combat pour certains, des baqueux, etc. Avec les brassards rouges. Il y a des jeunes, évidemment, des jeunes des quartiers qui ont été arrêtés, qui étaient là. Bon, malheureusement pour eux, ils avaient un peu de. Peut-être du chichon dans les poches, donc ils se sont fait emmerder par rapport à ça. Et il y avait très très peu de réactions. Hein. Donc ça, c'est quand même chiant, quoi. Après, on est repassé devant le palais de justice. Il y avait un groupe de jeunes qui est monté sur un abribus, qui se sont fait encercler et contrôler, et tout ça. Pareil, là encore, pas de réaction, quoi. C'était... Ensuite, ah si, j'ai oublié une chose, c'est que moi je ne l'ai pas constaté en direct, mais vous savez qu'il y avait aussi le rassemblement par rapport
au climat,
et il y avait un autre rassemblement qui se tenait à la Fontaine de la Solidarité. Il semblerait que les gilets jaunes soient arrivés à ce moment-là et que la police a dit au groupe contre la dégradation du climat de bouger. Et en fait, le groupe est parti. Il n'y a pas eu du tout de convergence. Hein. Alors, je ne sais pas si elle était souhaitée de part et d'autre. En tout cas, bon, moi, je trouvais ça assez lamentable parce que par ailleurs, je considère que si on veut parler... si on veut aborder la question climatique, la question de la dégradation, il faut d'abord passer, et en tout cas, on ne peut pas faire l'impasse sur la question sociale. On est obligé de passer et de réfléchir ensemble. Surtout quand il y a un mouvement de cette ampleur, parce que c'est quand même un mouvement, avec toutes ces contradictions, on les a soulignées de multiples fois ici, il faut être là, il faut être avec les gens, il faut avoir des discussions avec les gens, et malgré tout, il y a moyen d'avoir des discussions, parce qu'il y avait quand même des gens qui s'intéressaient à la question du climat, qui étaient parmi les gilets jaunes. Moi, j'ai rencontré quelqu'un de Sciences Po, par exemple, qui était la seule personne à avoir distribué un tract. Bon, voilà, on a discuté de plein de choses, et puis j'ai rencontré une autre personne qui également était un... Comment on appelle ça un décroissant, voilà, c'est ça, je cherchais mes mots, excusez-moi.
Un boulanger.
Voilà, donc il faut avoir des discussions avec les gens, il y a un énorme travail à faire, hein, peut-être, avant de pouvoir poser des problèmes, il faut le faire, c'est concomitant, il ne faut pas que les groupes comme ça partent chacun dans leur... dans leur sphère. Donc l'autre groupe est parti vers la rue de Velle et pendant que les gilets jaunes partaient vers la sous-préfecture.
Donc Jean-Noël, tu nous parles de la manifestation de l'après-midi, parce qu'apparemment il y a eu aussi une manifestation le matin qui s'est rendue de Cormontreuil à la sous-préfecture où ils étaient 100 à 200.
Ouais, c'était une petite marche en fait. C'est les gens qui ont décidé de rejoindre... avant le rassemblement de 14h, qui ont décidé de rejoindre la préfecture symboliquement en partant de Cormontreuil. C'était une marche, ouais, effectivement. Mais bon, moi, j'en sais pas davantage, effectivement, sur qu'ont apporté ces gens-là, quoi. C'était... bon, c'est un peu... Ça manque de contenu, tout ça, quoi. Ça manque quand même de choses concrètes, hein, Je veux bien, ça fait 3 semaines qu'il y a des gens qui sont mobilisés sur des ronds-points et tout ça, mais peut-être qu'à un moment ou un autre, je veux bien hein, que le gouvernement il saute, je veux bien que Macron il saute, c'est pas mon problème, mais faut savoir qu'est-ce que ce mouvement peut amener de palpable, de concret, qu'est-ce qu'on va... Ok, on va avoir peut-être des augmentations de ceci ou cela, je sais pas, moi j'attends pas le Messie, hein, j'attends pas les paroles du Messie ce soir, je m'en fous complètement, mais c'est au mouvement lui-même d'amener des choses, j'ai rien entendu par rapport au capitalisme par exemple, je veux dire, nous, c'est quand même des choses qu'on décortique à l'infini depuis des années, Il y a quand même le capitalisme qui est toujours à l'œuvre, alors on peut... Voilà, c'est tout.
Justement, j'avais demandé quel type de personnes étaient venues à la manif.
Ah, par contre, c'était très bigarré. Je trouve que c'était effectivement, de ce côté-là, bon, c'est plutôt positif. Je dis, ce qui est positif, c'est qu'une grosse mobilisation, il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de monde.
Bon, tu dirais combien ?
Ouais, pas loin de 1500, 1200, 1500, quoi.
Ouais, quand même.
Mais ça manquait de prise de parole et ça manquait de volonté de gêner. Moi, ce qui m'a énormément gêné, c'est qu'il n'y avait pas la volonté d'entraver la circulation, il n'y avait pas la volonté de, Ok, on est là, mais dans des endroits stratégiques, on peut y rester. On sentait bien qu'il y avait eu cette négociation avec les forces de police et que il fallait pas faire de vagues, quoi. On est passé aux abords de la cathédrale et donc du marché, du fameux marché de Noël, mais il s'agissait pas de rentrer dans le marché de Noël, parce que donc on avait affaire à un SO des Gilets jaunes qui était là, qui le cas échéant désignait des gens. Ça, c'est très très gênant quand même.
Désigné
aussi. Oui absolument. On désignait des gens derrière Libergé qui étaient des fouteurs de merde. Donc les flics sont pressés d'aller les contrôler et il y a quelqu'un qui a été arrêté, quoi. Donc non, c'est très gênant, quoi, genre de pratique.
Alors, moi, ce que je peux te dire sur, et ça confirme ce que tu narres, la manière dont tu écris, c'est que vendredi, on a été avec. Alors, on sait qui, c'est des gens qu'on a pu rencontrer, des gens qui sont syndiqués à la CGT, mais évidemment de leur propre initiative, hein, pas de l'initiative du syndicat ou de l'union locale, hein, ça se saurait, hein, évidemment. On est allé à Tillois, donc ouais. Sur la route de Soissons, pour discuter avec des gens qui tenaient le barrage. Et c'est là qu'on a appris que effectivement il y avait un groupe de personnes qui s'étaient rendues à la préfecture, hein, et à l'hôtel de police pour négocier et informer de la manifestation. Et ça semblait tellement pas recueillir l'assentiment des personnes qui étaient en face de vous, de nos interlocuteurs, qu'ils nous faisaient part de leur envie d'avoir un deuxième point de rassemblement, un deuxième regroupement. Qui aurait peut-être été dans une...
C'est d'ailleurs pour ça que dans la presse, je pense que c'était ce vendredi, il était dit qu'il y avait... on sous-entendait qu'il y avait une scission, hein, puisqu'il y avait d'un côté les gilets jaunes de Reims et des environs, et les autres, c'était les gilets jaunes officiels.
Ah, ouais. Oh, déjà ouais. Et certainement que les plus vindicatifs et les plus énervés, en tous les cas, ceux qui étaient le plus, même on va dire combatifs, peut-être, parce que énervé pourrait apparaître comme dépréciatif, peut-être qu'ils sont préférés aller sur la capitale et sur la ville de Paris. Alors après, bon, pour la teneur politique, je pense que c'est aussi des gens qui sont dans un apprentissage. Alors oui, effectivement, 3 semaines, normalement, ça devrait quand même pouvoir commencer à s'agglomérer, en tous les cas, pour des choses. Mais écoute, tu peux voir le verre à moitié plein, à moitié vide.
Ouais.
1500 personnes sans encadrement, sans parti politique, sans syndicat, c'est quand même chouette. Par contre, effectivement, tu parles de pratiques... tellement on est dans la volonté de bien se représenter, s'il y a des dénonciations, parce que, bon, quand même, on va voir, hein, parce que le président de la République nous fait l'amitié de nous faire les gregors avant de s'exprimer, il attend de savoir ce qu'on a à dire, et il a bien raison. Un des enseignements, quand même, qu'on va pouvoir tirer de ces 3 semaines de mouvement, c'est que... pardon pour la blague pourrie, mais contre la taxe sur le carburant, la prime à la casse, quoi. Parce que pendant 2-3 semaines, des gens formulent des revendications raisonnables, somme toute, atteignables pour le pouvoir. Et une soirée, une journée d'émeute, et voilà que tout tombe à bas. À la fois dans la panique, à la fois dans l'effroi
et la stupeur qui saisit les dominants et leurs collaborateurs. Rendez-vous compte, des pouilleux qui sont venus dégrader le 8e et le 7e arrondissement, des gens qui ne veulent même pas aller faire les soldes.
Ça tu parlais de la semaine dernière.
C'est ça, mais même de cette semaine-là encore, hein, on voit à quel point ça s'est accéléré. Et puis surtout, de comment on voit que devant la panique et un mouvement populaire, eh ben, y a la matraque qui est bien derrière.
C'est plus que ça.
Parce
c'est le record.
Que,
ouais. C'est le record officiel. Alors, d'après le journal Basta, qui est un journal sur Internet, il y a eu, depuis le début du mouvement, 3300 arrestations, dont plus de 1700 le week-end dernier, 1052 blessés, une personne toujours dans le coma et au moins un décès direct, voilà. Bon, alors ça bat largement la contestation contre la loi travail de 1976, hein, où il y avait eu seulement 753 personnes poursuivies.
Pardon, là, 76 la loi travail.
Oui, 2016 pardon. Ah, 2016. Pardon, oui. Oh là là là. 2016. Et par contre, il y a eu, il y a dans ce mouvement des Gilets jaunes, 2354, actuellement, hein, ça peut encore évoluer, manifestants placés en garde à vue. Il y en a 1200 qui auraient été déférés devant la justice. Ça n'a rien à voir avec les mouvements d'avant.
Alors oui, et en plus, on peut noter une innovation ce week-end. Puisque, hormis déjà le fait de se faire dépouiller et palper dans la gare, ce qui a été mon cas avant d'aller prendre son train, avec en plus quelques recommandations sympathiques ad hominem, du genre « je ne te souhaite pas de revenir en entier oh, », c'est pas grave, ça fait plaisir, hein, c'est... les trucs habituels, mais bon, un bon dépeçage, carrément dans la gare, hein. Il y avait une vingtaine de flics présents à la gare de Reims-Centre et à la gare de Champagne-Ardenne TGV, qui contrôlaient et palpaient avec, évidemment, contrôle d'identité. Bon, il n'y a rien d'irrégulier là-dessus, hein, parce qu'il y avait des arrêtés préfectoraux, ouais. Mais on sait que à 11h, par exemple, il y avait déjà plus de 500 personnes qui étaient arrêtées et placées en garde à vue.
Absolument.
Alors que les incidents n'avaient même pas commencé.
570, je crois.
Hein, c'est important de le dire. Donc, et placées en garde à vue. Hein.
Ouais.
Donc, à ce titre, la ministre de la Justice, qui a été quand même une ancienne membre du Conseil constitutionnel, je dis pas ça pour dire que c'est une brave femme, mais je dis ça pour dire qu'au niveau de la conception qu'elle a normalement du droit et de la loi, c'est que c'est intégré quand même. Enfin, non pas le fait qu'elle est là pour défendre nos libertés, mais au contraire, qu'elle est capable d'intégrer des éléments comme ça. Alors elle, ce qu'elle a dit, c'est que non, c'était pas des arrestations préventives, que c'était des arrestations qui étaient liées des infractions qui étaient commises. Nouveauté, déjà, avoir du sérum physiologique est une infraction. Donc voilà, ça faut le savoir, on le sait.
Avoir des lunettes de plongée.
Et aussi. Puis c'est surtout se foutre de la gueule du monde, quoi, parce que sur les 1700 gardes à vue qui ont été prononcés en région parisienne, hein, moi je parle de ce que je connais, hein, donc en région parisienne, il y en a déjà à cette heure-ci un peu plus de 500 qui ont été classés sans suite. Donc, qui veut dire que l'ensemble des gardes à vue n'ont pas donné lieu à des éléments assez importants pour des poursuites. Par exemple, ça peut être un simple rappel à la loi, là, comme on en a entendu de la part d'une célébrité locale. Mais alors là, on a clairement des gens qui n'ont pas pu, en plus, se rendre à la manifestation.
Bien sûr. C'est fait pour ça.
Et en plus, la plupart du temps, le chef d'inculpation qui permet de déférer ou, en tous les cas, de placer en garde à vue, c'est en vue de. Donc c'est sur l'intention.
Ouais,
alors là, on est quand même sur quelque chose qui est à la fois intéressant, mais aussi particulièrement, on va dire, enfin flippant quoi, parce que en vue d'eux, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans quoi. Hein. Effectivement, si t'as de la littérature subversive sur toi, c'est en vue de former un regroupement qui peut porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publique. Peut-être pas de la tienne et celle de tes amis, mais en tous les cas de ceux du combat, quoi. Donc, en vue de, ça peut aller très très loin. Ça, c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, sera travaillé par des avocats et je l'espère, peut-être par des juristes, parce que c'est quand même assez flippant.
Bah ça, c'est du registre au niveau de Cour européenne des droits de l'homme. Cette pratique, en fait, c'est une pratique de stratégie judiciaire de la part de cet État. Alors, il y avait la stratégie du spectacle avec les blindés, tout ça. Dans un premier temps, la semaine dernière, le gouvernement a entretenu un climat anxiogène, un climat de peur sur la destruction, tout le langage, la sédition concernant les gilets jaunes. Ce climat de profanation, on a parlé de profanation des symboles français, tout ça. Et là, c'est la stratégie de capture préventive des gens. Hein, c'est des milliers de personnes qui sont capturées. Et je crois qu'il y a même un élément supplémentaire, c'est que... Alors là, tu viens de parler des éléments interdits qui sont de nature à se protéger les yeux, se protéger pour pouvoir respirer, se protéger les membres, qui, à notre sens, on pourrait aussi penser à des chaussures de sécurité, parce que on pourrait quand même rappeler que l'État utilise des grenades qui contiennent du TNT, plusieurs grammes de TNT, que chaque manifestation, il y a des blessés plus ou moins graves, il y a des gens qui ont perdu la main, qui ont perdu des yeux, etc., qui ont des pieds grièvement blessés. Donc, moi, ce que ça me fait réfléchir à une notion, c'est qu'en fait, le droit de manifester n'existe plus concrètement, puisqu'en fait, on est obligé d'être nu quand on va manifester, parce qu'on n'a pas le droit, notre corps ne nous appartient pas. Il appartient à l'État. C'est pas simplement la force qui doit rester à la loi, c'est en fait on doit être complètement nu comme des vers pour pouvoir aller se rebeller contre des lois scélérates ou des prélèvements.
Il y a aussi, je pense, le fait, alors tu l'as dit hein, quand même, militairement dans les rues de Paris samedi après-midi, voir des VAB, donc des véhicules amphibies blindés remonter les avenues bourgeoises. De Paris, ça a un petit côté commandant de tour, tu vois. Il manque plus que le noir et blanc et c'est bon, quoi. Hein. On a eu en plus l'étalage des forces de sécurité avec la police montée. Quelque chose de très très fort symboliquement.
Il y a eu des charges de la police montée ?
Pas à ma connaissance.
Ah non.
Je sais pas. Hein. Je pense pas. Je pense qu'on en aurait entendu parler. Ça aurait été tellement fort symboliquement. Mais bon, de toute façon, on tape dans l'ensemble des réserves de police hein, pour pouvoir. Mais même symboliquement, c'est très très fort quand tu te fais entourer par des chevaux avec des policiers. Il y a un petit côté ancien régime, tu vois. T'as vraiment l'impression d'être un gueux, quoi. Tu attends la charge, le sabre au clair. En plus, une partie de la manifestation s'est déplacée dans les vieux quartiers de Paris, à savoir la rue Saint-Denis, la rue Ramponneau, etc., qui sont les lieux historiques du soulèvement de 1848 et du Paris ouvrier. Soulèvement de 1848 qui est celui qui a donné lieu à la Seconde République et au suffrage universel. Il y a même des plaques dans la rue Saint-Denis qui décrivent comment ces barricades ont eu lieu, comment elles ont été reprises et comment elles sont citées dans un des plus beaux romans de la langue française, hein, qui est Victor Hugo et Les Misérables. Quelque part, on le voit, ce qui peut être célébré d'une main peut être repris de l'autre. Mais je crois que c'est vachement important dans ce que tu disais par rapport à cette espèce de tentative d'écrasement psychologique, moral, pour pas justement que les gens se rebellent, parce que effectivement les manifestants qui viennent, que ce soit à Paris mais aussi partout ailleurs, ils voient bien la violence de l'État et on n'en entend absolument pas parler. On a des gens qui s'horripilent et qui nous traitent de séditieux parce que il y a des tags sur un monument.
Bah, c'était, je te coupe, excuse-moi, quelques secondes. C'était les propos d'un syndicat de police, des officiers de police, je crois, qui avait parlé de ça, de sédition.
Les syndicalistes policiers, un jour, ils vont prendre la deuxième vague de ce que va être un soulèvement populaire et ça va leur faire très 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 mal. Et notamment la dame là qui s'appelle Linda Kebab. Hein, franchement, comme quoi on peut réussir dans la vie avec un nom de famille ridicule. Hein, tout est possible. EGP, unité police et faux là, je sais pas quoi. Si c'est ça, hein, c'est faux police. Hein. On disait y a pas besoin d'un FN dans la police, il y a déjà FO. Mais qui se permet de dire que les policiers ont été matraqués et mutilés. Denis, tu parlais plus de 1000 blessés 100, avec des
178 forces de l'ordre. Quand tu sais au niveau des blessés, c'est marrant d'ailleurs de constater qu'il y a eu plus de 1000 blessés au niveau des manifestants et au total depuis le début du mouvement, il y a eu 178 policiers qui ont été blessés. Quand on sait ce que c'est bien souvent une blessure pour les policiers.
Oui, hein, c'est ça, une foulure, un coup, un bleu, etc. Et je crois que avec des images qui sont quand même super gore, quoi. Super, super gore, quoi. Franchement, c'est des blessures de guerre, quoi. Quand tu te fais défoncer un œil, quand tu te fais défoncer par 8 mecs de la BAC et que t'as 15 ans...
Surtout qu'au niveau des lycées, c'est ce qui se passe.
Ouais, c'est ça.
C'est ce qui s'est passé aujourd'hui encore.
Mais c'est pas que, hein. Il y a les images de cette vieille dame en sang qui se fait gazer. Tu l'as dit. Il y a des retraités, donc des gens qui sont pas forcément des menaces, hein, on va dire physiquement. Hein. Il y a un décès direct à Marseille avec cette dame qui s'est
prise. Il est établi qu'elle a été visée, hein.
Et puis, de manière plus symbolique, mais tout autant puissant, on va dire, et super violent, Amante la Jolie, cette espèce de comment dire, de mise en scène Chili. Quand c'est Chili, ça veut dire
c'est Chili
ou Pinochet, quoi.
Où c'est les résistants français qui étaient mis à genoux comme ça.
Cette ambiance de dictature de stade, quoi.
C'est ça.
Avec en plus un mélange entre une distinction entre ceux qui ont les mains attachées contre le mur, hein, et puis ceux qui ont les mains sur la tête. Et
tu
en
parles
plus,
bien des lycéens de Mantes-la-Jolie qui étaient 150 agenouillés, les mains sur la tête.
Pendant plusieurs heures, ouais. Avec un commentaire, en voilà une classe bien stage. Alors je sais pas si c'est un policier qui filme avec sa caméra de bord. Ou s'il prend son téléphone, ou c'est une initiative personnelle. Mais non seulement il le filme, mais en plus il le fait fuiter.
Ouais. Ouais.
Donc là, on a quand même un programme politique, quoi. Ouais. C'est pas n'importe quoi, même si elle a été retirée. Et qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'ils pensent les syndicalistes policiers de ça quand le premier contact, quand t'as 15 ans avec la police, c'est ça?
Alors c'était l'objet d'une discussion dans la manif de Reims. J'en profite pour revenir sur des. Parfois on a des petites lueurs. On rencontre des gens. Effectivement, même si c'était pas très enthousiasmant d'être dans le Rassemblement Rémois, mais j'ai eu cet échange avec quelqu'un qui encore une fois avait un drapeau français et j'ai évoqué avec quelqu'un qui était à côté de moi justement le fait que des lycéens avaient été mis à genoux comme ça pendant plusieurs heures. Et le gars, il commence à dire « Oui, mais bon... » Il commençait à dire « Ouais, mais ils l'ont bien cherché. » Je dis « Pardon ? Comment ça, ils l'ont bien cherché ?» Et là, en fait, je lui ai dit « Mais de toute façon, il n'y a rien qui peut justifier une pratique comme ça, policière. » Ou alors, je veux dire, ça peut arriver... Ou alors, ça arrive à tout le monde. Et là, on va voir... Et de lui demander est-ce qu'il pensait que justement il y aurait pas, ça ne pouvait pas susciter soit de la révolte pure ou alors de la... Comment dire, un traumatisme certain pour les gens qui ont subi ça. Et là, effectivement, ça l'a un peu fait changer d'avis, quoi.
À tel point que, notamment en banlieue parisienne, mais pas seulement, hein, parce que ce type de comportement a lieu un peu partout. On a vu à La Rochelle, quand même pas une ville connue pour son agitation gauchiste, hein, côté là que déroulaient les universités d'été du PS, la ville du pull enroulé autour du cou, que même là, des jeunes bien propres sur eux se faisaient péter la gueule. Ce que je veux dire, c'est, je veux pas dire que c'est parce qu'on n'est pas propre sur soi, on a le droit de se faire péter la gueule. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est partout, quoi. Et effectivement, va falloir passer à la caisse, quoi. Et y a des arriérés. Et moi, je peux te dire que dans les manifestations parisiennes et dans les affrontements auxquels j'ai pu assister, j'ai bien dit assister, il n'y a pas de pacifistes. C'est-à-dire que effectivement, l'ensemble des gens ne participent pas, même s'il y en a beaucoup qui sont des braves gens enragés, quoi. Complètement, avec des comportements qui sont quasiment, on va dire, d'explosion de colère. Je pense notamment à ce brave intérimaire dans le bâtiment qui s'est jeté la tête dans
j'ai lu son témoignage tout à l'heure justement.
Il s'est jeté la tête la première dans les CRS parce que ça explosait.
Ça, après plusieurs heures de discussion, il essayait de discuter et dit « j'ai voulu les faire réagir ». C'était...
Bon, on a toujours connu ce type de truc-là. Rappelez-vous, dans les manifs très durs anti-nucléaires des années 80, il y avait ce type de comportement des manifestants qui essayaient de raisonner les CRS qui étaient en face, qui n'en avaient rien à foutre quand ils avaient... Oui. Décidé de charger, eh bien, il massacrait ces personnes qui leur avaient apporté des fleurs ou je ne sais quoi.
D'ailleurs, je reviendrai prochainement avec un très long témoignage d'un copain, Jean-Marie de Chaux, là-dessus, justement, qui explique des choses comme ça. Ça serait intéressant de remettre ça dans les éléments historiques qu'on a de la pratique des gardes mobiles et de la pratique de l'armée.
Et ce qu'on va peut-être pour conclure sur la partie violence et affrontement, c'est que on sait qu'il y a une économie générale de la violence et qu'elle est réciproque et qu'elle est circulaire et que de toute façon on sait comment ça commence mais on sait pas comment ça finit, quoi. Et c'est un très 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 mauvais signe que les flics ne sortent pas de leur devoir réserve. Est-ce qu'ils le peuvent? Parce que ce que les gens ont retenu, et ça, moi, c'est des discussions avec qui j'ai eu dans le RER qui m'emmenaient, et dans les transports en commun qui m'emmenaient à la manifestation, et ça a été très, très intéressant d'entendre que quelqu'un me dise ça, deux personnes même ont dit ça, c'est que la semaine dernière, il y a eu du fric pour donner des primes aux policiers. Et que donc, on les a payés pour qu'ils nous tapent sur la gueule. Alors, ok, ils nous tapent sur la gueule, on le sait, c'est pas des potes, ils nous mettent des amendes, etc., des fois... toujours négocier avec eux, il y a une phase de négociation, mais là, c'est tout le monde qui nous tape sur la gueule. Et là, il y a du fric. Et moi, on ne me file pas de fric pour finir l'en bas. Et on nous dit qu'augmenter le SMIC, ça détruit des emplois. Eh bien, d'accord, augmenter le SMIC, ça détruit des emplois, mais ne pas augmenter le SMIC et continuer le mépris de classe, ça détruit des vitrines.
Ça détruit et ça détruit la vie.
Raphaël, pause musicale.
Allez, oui. C'était un extrait de la bande originale du film En guerre, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu ou qui l'auraient reconnu mais qui n'étaient pas sûrs de leur choix. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce pays cette semaine, alors ? Est-ce qu'on est en phase de quelque chose ? Est-ce qu'il va pouvoir y avoir un retour à la normale ? Comment faire pour que ce soulèvement, cette révolte-là, puisse déboucher sur quelque chose de positif?
Bah, je crois que si ça débouche sur quelque chose de positif, c'est parce que les gens se mettraient en grève, déjà, là où ils bossent. Je veux dire grève, où je pense aussi aux lycéens, aux étudiants, tous ceux qui sont dans les lieux collectifs de vie, de vie sociale. Si effectivement ces gens-là se mettaient en mouvement, ça changerait beaucoup de choses, je pense. Hein, parce que bon, ces gens qui sont sur les ronds-points, on s'aperçoit que d'un rond-point sur l'autre, ça dépend. Il y a des gens très sympas, des gens chouettes. Puis de l'autre côté, tu as des gens complètement réac, complètement vraiment à qui on n'a rien à faire, hein, je pense. Voilà, je crois que c'est... Je pense qu'on va regarder ça, mais... Enfin, on va regarder ça, tout en essayant d'y participer, mais à signaler tout de même que dans ce qu'on dit ici, on a du mal, tout au moins sur Reims, à participer réellement. Je crois aussi que c'est ça.
Oui, oui, bien sûr.
Hein, je crois que, alors qu'on serait dans d'autres régions, par exemple, je pense à Saint-Nazaire, je pense pas très loin d'ici, à l'émission de la dernière fois qu'on a passée
à Commercy.
Là, on serait dedans complètement, pas 24 heures sur 24, mais presque, ou quasiment. Et puis, on s'aperçoit que dans d'autres villes, c'est pareil. Il y a les copains, les gens qui sont en mouvement, d'habitude, ou qui sont traditionnellement grévistes, ont du mal à vraiment se mettre avec ces gilets jaunes.
Moi, il y a quand même quelque chose qui m'a intéressé, c'est que c'est le nombre d'endroits où il y a eu des problèmes avec la police. À Charleville-Mézières, une nouvelle fois.
Ouais.
Et quand, comme j'étais pas bien, j'étais chez moi, je suivais un petit peu, par l'intermédiaire du journal local, ce qui se passait. Et donc, à un moment donné, c'est les flics. Donc, à un moment, il y avait les gilets jaunes se trouvaient à deux endroits dans Charleville, devant un supermarché avec des paysans, et puis ils se trouvaient en centre-ville, et puis après ils sont revenus vers le secteur de Mézières où est la préfecture, le tribunal, etc. Et quand on suivait ce qui se passait, tu comprends que c'est les flics qui, les premiers, ont chargé. Donc ils ont chargé à Cora Villesmeuse, et puis après ils ont chargé dans la ville. Et tout d'un coup, à 7h, je regarde les infos régionales, et là j'ai une autre vision, puisqu'on nous dit que ce sont des bandes de casseurs qui sont arrivés et qui ont provoqué les flics. Alors que dans le déroulé, et si vous lisez aujourd'hui le journal local dont j'avais suivi le truc, ils viennent sur la position de François de dire que s'il y a eu de la casse, c'est parce qu'il y a des casseurs qui sont arrivés qui n'avaient même pas de gilets jaunes. Alors qu'au départ, moi, quand je suivais le déroulé, puisque en fait, quart d'heure par quart d'heure, ils vous donnaient la situation, c'était pas ça qu'on lisait. Qu'on interprétait.
Oui, tout à fait. Alors moi, il y a des trucs aussi au niveau médiatique. Aujourd'hui, par exemple, ce matin, à midi, le bourg lycéen est terminé, il y a beaucoup moins de lycées de bloqués, il n'y en aurait qu'une quarantaine en France. Ce soir, ils sont obligés de reconnaître que le mouvement prend de l'ampleur, que c'est pire que vendredi, puisqu'on en est à 450 lycées bloqués ou en voie d'être bloqués. Tu vois, donc... pareil au niveau du nombre de manifestants. niveau de manifestants était annoncé au départ 30 000, 40 000 hier. Non, c'était samedi. Et puis finalement, de fil en aiguille, c'est monté, et c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, hein, c'est monté à 136 000. Tu vois, ouais, c'est vraiment un truc... Les médias se manipulent, essayent de manipuler les gens pour faire en sorte que les casseurs, ça doit les faire rentrer chez eux déjà, s'ils ne sont pas casseurs. Et puis le nombre de manifestants, le nombre de gens sollicités ou de gens qui sont en mouvement comme les lycéens, il faut faire baisser le nombre. Ça me fait penser à tous les mouvements sociaux qu'il y a eu, hein, 1995 aussi. Quoi. Alors on va voir cette semaine, je pense qu'il va y avoir cette semaine une, comment dire, surtout avec l'intervention de Macron ce soir, il va y avoir des sondages qui vont sortir et puis qui vont baisser le taux de gens sympathisant des Gilets jaunes. À tous les coups, hein, c'est la manip habituelle quoi, des médias.
Oui, alors pour revenir par rapport aux lycéens, par exemple vendredi à Reims, il y a eu 10 ou 11 lycéens interpellés devant un des lycées de Reims. Et donc, sur Facebook, je rigolais parce qu'il y avait une belle photo de la manif. Et il y a quelqu'un qui dit « Est-ce que les syndicats ont apporté leur soutien aux lycéens ?» Et juste à côté, je reçois un mail provenant de la CGT disant qu'il allait avoir un communiqué de soutien parce que, devinez pourquoi. Parce que un des le responsable de l'UNL, le syndicat lycéen qui mène le truc, s'est fait arrêter et s'est retrouvé condamné, donc dans la foulée, hein, juste après son arrestation, à 300 euros d'amende et 70 heures de tige. 70 heures de tige, c'est à peu près ce qu'ont tous les lycéens qui se font interpeller.
Ouais. Et là, il y a eu vraiment un gros problème, puisque moi, j'étais présent à cette manifestation. Ouais. Il y avait des syndiqués hein, qui étaient là, des gens qui sont des animateurs de leur syndicat, mais qui étaient, puisqu'on s'est rendu avec des membres du blocage de Tilloy sur cette manifestation lycéenne. On avait en face de nous des gens qui étaient harnachés casqués, dont... Première, pour moi, des gens de la police municipale qui avaient déjà des caisses, ouais, c'est clair, pour des lycéens. Donc, évidemment, un climat de tension déjà bien créé et la crainte, la terreur de voir ces lycéens partir en manif sauvage, alors que c'est somme toute le propre de toute manifestation lycéenne, c'est clair. Mais ce qui était assez quand même... perturbant en tous les cas pour moi, c'est que un seul adulte, un seul prof est sorti, prof bien connu d'extrême gauche et par ailleurs secrétaire de l'Union locale CGT, c'est pas pour remplir sa carte de visite, mais ça explique aussi pourquoi il est sorti, un seul, pas de pion, pas d'encadrement, etc. Il y a eu une jeune fille qui a été blessée. Donc voilà un petit peu, bravo les parents, quand vous confiez vos gosses à l'éducation nationale à Liberger, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, ils sont pris entre de bonnes mains.
On peut dire même les circonstances, parce qu'elle a été blessée parce qu'il y a eu une charge assez violente et qu'elle a été...
Elle a été poussée, un trottoir, elle est tombée, ouais. Et puis, d'autre part, on a des flics qui faisaient là bien bien les malins, notamment évidemment comme d'habitude l'équipe de Triste Cire des brigades anticriminalité. Alors évidemment c'est très facile de faire le malin devant des adolescents de 15 ans qui pèsent 40 kilos. C'est moins facile de faire le malin devant une foule de prolétaires en colère à Paris quand on se retrouve isolé dans une petite rue. Les gens de la rue Daniel Casanova sauront de quoi je veux parler. Voilà, là, évidemment, on fait moins les malins, quoi. Et alors, par contre, moi, je suis arrivé et on a appris qu'il y avait des interpellations. Malheureusement, on a proposé aux gens de se rendre devant le commissariat de police pour essayer de créer un rapport de force immédiat pour avoir des nouvelles et peut-être essayer d'avoir la libération tout de suite. Ça n'a pas été possible parce que les gens n'avaient pas l'habitude. Et puis, comme tu l'as dit, en termes de mobilisation et de, on va dire, démarche stratégique et politique, les Gilets jaunes, c'est assez... à Reims, en tous les cas, hein, c'est assez... faible, en tous les cas, ça se cherche, ça se cherche,
ça se cherche.
Pardon, c'est pas facile à dire pour moi. Mais bon, c'est quand même, enfin, ça va, il n'y a pas de conséquences graves puisque 70 heures de TIG et 300 euros d'amende, c'est pas grand chose, mais quand on n'a rien fait, et on imagine que si ça avait été dans d'autres conséquences, ça aurait pu être plus hard. Donc il va falloir faire ça. Et d'ailleurs, ça, c'est un mot d'ordre qu'il faut qu'on mette en avant et qui, pour le moment, j'ai pas vu, puisque il y a une plateforme de 42 positions, de 42 revendications qui a été élaborée. Cette plateforme, elle a été élaborée par un sondage auquel 30 000 personnes qui ont été un jour ou un autre présents sur un rond-point ou qui se sont un jour ou un autre sortis dehors avec un gilet jaune, quelque part, c'est le minimum qu'ils leur ont demandé pour pouvoir répondre à ce sondage. Donc il y a une liste de 42 revendications qui a été élaborée, duquel les interlocuteurs peuvent se saisir s'ils veulent discuter. Alors il y a aussi bien la revendication, l'augmentation du SMIC que celle du RSA. Que la fin que le référendum révocatoire, que la mise au salaire médian des élus, c'est plutôt, il y a des choses très intéressantes dans ces revendications. Et eh ben non, justement, j'allais te dire, c'est exactement ça où je voulais en dire. Déjà un minimum, l'amnistie de tous les gens qui ont été condamnés à partir du moment où ce mouvement a commencé.
Ouais, tout à fait.
Si en plus, pour une fois, on est dans une position de vainqueur, il faut en profiter. C'est-à-dire que si il nous tend la main, il faut lui bouffer tout le bras. On a faim, et c'est bientôt Noël. Et notre table se vaut au moins d'un gouvernement, si ce n'est pas un président. On va aller manger, les bourgeois, et il faut se servir. Le bourgeois, c'est gros, c'est gras, c'est bon, ça remplit son ventre. Donc faut pas hésiter, il faut y aller. On sait très bien qu'en plus, dans un mouvement qui fout pas à bas le système par terre, ni le capitalisme par terre, bon, c'est un soulèvement, hein, là, on verra bien ce que ça va donner, mais tout ce qui sera pris, ça sera repris à un moment ou à un autre, ça sera grignoté.
Comme d'habitude.
Voilà, ça. Donc autant en prendre le plus possible, bien jouir avec, Et puis continuer, quoi. Mais alors, ce que j'ai entendu, moi aussi, c'est des choses qui, quelque part, pour contrebalancer notre situation ici. Alors, j'ai entendu parler qu'à des endroits, ça commençait à se structurer sur des formes qui étaient intéressantes, comme par exemple à Grenoble, où pour la première fois depuis le début du mouvement, une salle associative avait été réquisitionnée et une assemblée générale, où environ 2000 personnes avaient pu participer à un moment ou à un autre, avait siégé pendant 4 heures. C'est physique, hein, la démocratie, pour pouvoir justement essayer de sortir des trucs et réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, quoi. À Saint-Pierre-des-Corps, donc c'est
près
vers
Tours.
Un dépôt de carburant est bloqué depuis samedi. Il commence à y avoir des problèmes de carburant dans la Haute-Vienne et dans l'Indre-et-Loire. Donc ça aussi, c'est intéressant de poser la question de l'économie et du boulot. Et alors malheureusement, là, ce que je viens d'apprendre, j'ai eu un échange avec un responsable syndical local. Donc il y aura des actions et une journée de grève vendredi 14.
C'est ça, ouais. Vendredi 14.
Mais c'est pas
c'est
possible.
N'importe quoi.
C'est pas possible. Ben, c'est pas possible parce qu'en plus, ça va être des actions, si c'est des actions de blocage, mais alors là, vraiment, le syndicalisme joue son rôle premier, qui est celui de chien de garde du système.
Ouais.
Ils ont rien à dire aux Gilets jaunes. Il y a bien des syndiqués dans les Gilets jaunes.
Oui, il y en a.
Il y en a plein. tu fais un signe zéro, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je sais pas.
Bon, on va peut-être parler d'autre chose, non?
Ouais.
On peut peut-être parler
il nous reste quelques minutes,
de la lutte de Bure.
Prends le micro de Denis.
Tiens. Oui, ce que je veux dire. Il y a du micro là? On m'entend? Merci Camille. Alors, ce que je voulais dire par rapport à Bure, on va faire court parce que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui tout le cycle de conférences qui vont se dérouler dès le mois de décembre, hein, dès le 15 décembre, il commence à y avoir des choses importantes. La première chose importante, première rencontre importante, c'est les transports de CIGEO. Donc CIGEO, hein, vous avez retenu maintenant ce que c'est la poubelle géologique de stockage de déchets nucléaires. Le mardi 18 décembre, il y a tout ce qui tourne autour des transports de CIGEO. C'est une conférence qui va avoir lieu à Bar-le-Duc le 18 décembre. Le mardi 18 décembre à Bar-le-Duc, au centre social Marbeau. Et elle aura lieu également le 19 décembre à Abbeville, à la salle des fêtes. Alors, le thème, c'est quoi? C'est qu'en fait, CIGEO est censé, sera censé, si on n'arrive pas à faire abandonner ce projet démentiel, transporter des déchets nucléaires qui vont venir de Caen, de Paris, d'Amiens, toutes ces villes-là seront ou seraient traversées, Lyon, Dijon, les villes de Bar-le-Duc, Commercy, évidemment, Ligny-en-Barrois, Gondrecourt, Le Château. Et donc avec des déchets radioactifs qui seraient censés circuler au moins chaque semaine, quoi. Voilà, et donc il va y avoir des gens qui vont expliquer un peu tout ça autour de la Fédération régionale Mirabel et du CEDRA, qui vont expliquer tout ce projet, sachant qu'également, ce qui est en cours, c'est pour l'ANDRA de refaire des lignes de chemin de fer dans ce canton de Mandres-en-Barrois. Voilà. Alors tout ça, ça fait partie d'un vaste projet qu'on va développer plus tard. Tout un cycle de conférences, il y a une bonne cinquantaine de conférences qui sont organisées dans tout le Grand Est, qui vont aborder une multitude d'aspects concernant le nucléaire et CIGEO en particulier. Donc le premier grand chapitre, ce sera autour de « En route vers la nucléarisation du territoire ». Le deuxième grand chapitre, c'est l'histoire des luttes autour du projet CIGEO, parce que c'est une histoire effectivement qui remonte à peu près 20-25 ans.
Oh, voire plus.
Ouais. Le troisième... le troisième. Le deuxième chapitre, c'était « Vous avez des questions ?» Donc c'est tout ce que les gens se posent sur la sous-traitance du nucléaire. Bon, dessine-moi la radioactivité, par exemple. Vous avez envie de savoir sans oser le demander. Chronique d'un échec annoncé. Donc, parce que ça, il y a une analyse qui dit que justement, le projet est tellement ambitieux, tellement pharaonique. Je vous l'ai dit plusieurs fois, ça représenterait plusieurs dizaines de milliards. On avance le chiffre de 35 milliards. Et puis un chapitre beaucoup plus historique, c'est le projet Manhattan, le commencement de l'ère nucléaire. Il y a aussi deux autres chapitres importants. L'histoire des luttes dans le Grand Est, donc c'est les lieux où il y a eu de la résistance à l'implantation du nucléaire. Là, on y parlera de la lutte anti-nucléaire de Chaux à la frontière belge. Mais probablement aussi, il y aura également des gens de Longwy qui parleront de leur lutte. Et puis, il y aura aussi un débat, il y aura plusieurs débats, un autre gros chapitre sur la sortie du nucléaire. En moins de 10 ans, c'est possible et sans CIGEO. On reviendra là-dessus dans le détail prochainement.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital.
problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est le Mirador. Chaque semaine, sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Girons, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, sous cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.